Bienvenue en première classe, un balado par Gentologie, le magazine pour gentlemen. Mon nom est Normand Boulanger et je suis le fondateur, éditeur et rédacteur en chef de Gentologie et j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce 10e épisode. En première classe, c'est un espace de discussion où l'élégance contemporaine se vit à travers la connaissance, le savoir-faire et l'expérience. Qu'il s'agisse de montres, de styles, de gastronomie, de vins spiritueux, de design ou d'automobile. Aujourd'hui, nous explorons une autre facette du gentleman, soit le voyage. À ce propos, je reçois un grand voyageur devant l'éternel, M. Jean-Michel Dufault, auteur, chroniqueur, animateur et bien plus, avec qui je vais échanger sur son amour de l'Italie et en particulier sur la ville de Milan, destination prisée des amateurs de style et ville haute des derniers Jeux olympiques. Une conversation qui s'annonce aussi riche que la ville qui en est le cœur. Installez-vous confortablement et bienvenue en première classe. Hey, bonjour Jean-Michel, comment ça va aujourd'hui?
Ça va bien, Normand, ça va très bien, content de te parler.
Hey, moi de même. Aujourd'hui, ce qu'on va faire avec toi, c'est qu'on va un peu parler de Milan suite aux Olympiques, qui devient une destination quand même assez recherchée par les différents touristes, même si c'était quand toujours vraiment une destination quand même populaire. Donc, si tu nous parlais premièrement de ton historique avec Milan, comment tu as découvert un peu la ville et puis c'est quoi ton histoire un peu d'amour avec cette ville-là et avec l'Italie un peu?
Ben, l'Italie, ça a toujours été un pays que j'ai aimé depuis longtemps. Je me rappelle même dans mes premiers voyages en Europe, là, avec mon sac à dos et tout ça, c'est le nord d'Italie, j'avais fait Venise, j'avais fait Rome, j'avais fait des Umbria. Ça, je parle de 86, 88. Tu sais, j'ai des souvenirs très forts de pays qui m'avaient marqué parce que on mangeait bien, le monde avait de la gueule, le monde s'habillait bien. J'étais pas amateur de café à ce moment-là, c'est l'autre. Moi, le café, c'est vraiment quelque chose qui est devenu plus tard, mais j'aimais bien manger et je trouvais que les gens avaient de la gueule. Peu importe l'âge, les gens plus âgés, hommes, femmes ou les jeunes, tout le monde ils l'ont, les Italiens, pour le style et tout ça. Donc, ça, je me rappelle que ça m'avait frappé. Puis à la fin des années 90-2000, mon frère m'avait parlé de Turin, puis mon premier amour dans le nord de l'Italie, je connais d'ailleurs mieux le nord de l'Italie que le sud de l'Italie, là, mais tu sais, je suis avec Benoît Robert, on avait fait une série qui s'appelait Europe Express au début des années 2000, où on était parti avec nos petites caméras, puis on faisait un truc très, très simple, mais je pense incarné et authentique, on avait passé justement du temps à Turin, à Modena, au Parc des Cinq-Terres, qui à ce moment-là était peu connu, il y avait presque personne, tu sais, donc j'ai un romantisme aussi lié à ses premiers voyages où il y avait vraiment moins de monde, il y a 25 ans. Mais ma relation avec Milan, c'est drôle parce qu'au début, Milan, j'aimais pas tellement Milan. J'aimais beaucoup mieux Turin parce que je considère encore que Turin est plus jolie, plus belle. C'est une plus belle ville au niveau architecture, mais qui est moins connue parce qu'elle n'a pas le branding de Milan. Milan est un mot fort parce qu'on pense évidemment à la mode et on pense au design. Avec le salon de design à chaque année, avec toutes les grandes griffes italiennes qui viennent de Milan, la mode, les défilés, la semaine de la mode, le quadrilatère de la mode qui est un quartier dans le centre de Milan. Mais j'ai quand même, tu sais, je l'ai vu fin des années 2000, dans les années 2010 quelquefois, et récemment, je suis allé de plus en plus. Et puis, c'est une ville qui, après ma barre, peut sembler un peu difficile d'accès. C'est une ville un peu bourgeoise. C'est une ville vieille école un peu aussi, son rapport avec l'argent. C'est une ville un peu cachée. Des fois, tu te promènes dans la rue, ça a l'air de rien, et tu rentres après ça dans une cour intérieure, puis là, tu vois toute la beauté, toute la richesse. C'est une ville discrète. C'est une ville qui n'est pas ostentatoire. C'est une ville industrielle aussi, c'est le siège social des communications, des affaires, c'est une ville d'affaires, c'est une ville d'argent, mais de vieil argent et d'argent caché un peu. Il y a une sorte de retenue, c'est ça, de vieil argent, que le rapport que les gens, c'est pas bling bling et c'est pas new rich, c'est pas nouveau riche. Donc, je l'ai donc apprivoisé, découverte et là, de plus en plus, surtout cette année où j'ai passé plus de 15 jours là, ma relation grandit avec Milan et c'est une ville que de plus en plus j'aime.
C'est vraiment intéressant parce que tu nous parles de Turin qui était une ancienne ville olympique. Et tu nous parles de Milan, qui est une nouvelle ville olympique. Donc, justement, tu étais là pour les Olympiques. Comment s'est passée, justement, cette expérience-là? Je pense que tu as été un peu... tu as trouvé ça un peu dommage parce que tu ne sentais pas l'esprit olympique nécessairement dans Milan. Je trouve que ça me semble c'est ça que tu disais, à moins que je me trompe. Mais comment tu as trouvé l'expérience olympique dans Milan? Et ça se compare... Je ne sais pas si tu as vécu d'autres... olympique dans ta vie? Je pense que oui, avec Radio-Canada à l'époque, mais ou TVA, je m'en souviens plus. Désolé. Comment tu compares cette expérience-là de Milan, du côté olympique, par rapport à ce que tu avais vécu? Comment ça a été organisé? Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était beau? Est-ce que tu sentais ça festif?
Ben, ouais, c'est mes troisièmes Jeux d'hiver que je faisais. Moi, je suis fan de sport et je suis fan des Jeux d'hiver et surtout, je suis fan des Jeux d'hiver quand les meilleurs joueurs de la Ligue nationale et du monde entier sont là. Et pour moi, donc, j'avais vraiment ça dans mon calendrier parce qu'on sait que depuis 2014, il n'y avait pas eu de joueurs de la NNH. En 2018, en 2022, ils n'étaient pas là. Et quand j'ai su que non seulement, bon, évidemment, que ça faisait plusieurs années qu'on savait que Milan était là, mais quand on a su que l'Association des joueurs de la Ligue nationale et la Fédération internationale de hockey sur glace, bon, on s'est entendu pour que les joueurs puissent y aller, qu'il y ait cette pause hivernale pour permettre aux joueurs d'y aller. Mais là, j'étais clair dans ma tête, je me suis dit, je veux vraiment être là. Parce que j'étais en 2002 à Salt Lake et en 2006 à Turin. En 2002, à Salt Lake, j'avais fait des petites capsules vidéo légères pour Bell Media à ce moment-là et Radio-Canada, que j'avais réalisé que Sébastien Benoît animait des rencontres avec des athlètes, mais de façon très, très... c'est le début des caméras DV, du digital, des caméras légères. Fait qu'on avait fait ça. Puis en 2006, je suis parti par moi-même parce que justement, un ami de mon frère, un gars que je connais, Stéphano, étonnamment, avait un super bel appartement dans Turin, mais il dit, moi, je veux pas être là pendant les Jeux olympiques, il y aura trop de monde, il y aura trop de touristes, ça va être un peu la folie. Donc, il dit, puis je pense qu'il m'avait loué son appartement à 250 euros la semaine, qui est un prix ridicule, là, et qui était hyper bien placé. Donc et ça, j'étais allé en premier juste comme ça. Puis finalement, j'avais fait des capsules pour Caféine à l'époque à 4 saisons et pour le show, il est trop de bonheur avec Norman Brathwaite. Donc, en tout cas, j'avais eu 2 semaines formidables parce que Turin avait vraiment la fibre olympique. La fièvre olympique aussi, c'est une ville que j'aimais déjà, que j'adorais. Ça a été un souvenir vraiment, vraiment formidable. C'est pour ça que je m'étais dit, je veux vraiment retourner à Milan. Ce qui est drôle de Milan, c'est des drôles de jeux d'hiver quand même, parce que Milan n'est pas... Tu sais, le climat ressemblait à une journée d'automne au Québec. Tu sais, il n'y a pas de neige dans la ville. Ils ont voulu faire... ce qui est un peu la tendance maintenant, de faire des jeux développement durable, pas d'éléphant blanc, et avoir une empreinte carbone et une empreinte sur l'environnement très, très minime. Donc, l'idée des jeux, c'était de dire, bon, ben certains trucs sur glace vont être et dans le stade vont être à Milan, mais toutes les compétitions de glisse vont être à l'extérieur. Et on va utiliser beaucoup, souvent, des trucs qui existent déjà, qu'on va juste avoir à rénover, mais on va utiliser les installations qui étaient déjà là pour ne pas justement créer des dépenses astronomiques, avoir une empreinte sur l'environnement qu'on ne veut pas. Donc, ce que ça a fait dans le fond, j'ai l'impression que c'est 2 jeux. Moi, à l'origine, je m'étais dit, est-ce que je vais me promener, mais finalement, j'y allais surtout pour le hockey et masculin et féminin, parce que j'ai vu des matchs de hockey féminin aussi qui étaient formidables. Et il y avait tellement de matchs pendant que j'étais là que je ne suis même pas sorti finalement de la ville, même si j'avais amené mes vêtements d'hiver et mes bottes et tout ça. J'avais des matchs de hockey à tous les jours, fait que je suis resté à Milan. Et à Milan, c'est vrai que les gens l'ont dit, il n'y avait pas une énorme fièvre olympique dans le sens visuellement, là, il y a plein de quartiers, tu te promenais, tu savais même pas qu'il y avait les Jeux olympiques. Il y a quelques trucs qui te rappelaient. Et les gens, j'ai parlé à des amis italiens, des gens qui connaissaient les Italiens, puis ils disaient, tu sais, ça en prend beaucoup pour impressionner le Milanais. Pour lui, c'est un petit événement comme ça, pas plus spécial qu'il faut. Et beaucoup d'Italiens m'ont dit, il y a plus de fébrilité à la semaine de la mode ou à la semaine du design qu'aux Olympiques à Milan même. Cela dit, il y avait quand même une belle atmosphère dans certains coins, il y avait du monde, et dans les différents lieux où il y a eu d'autres compétitions, le ski alpin, le bobsleigh, les trucs comme ça. Mais comme c'était dans des petits villages, il y a eu certains athlètes qui ont dit, ben, on trouvait ça dommage parce qu'on était loin du village olympique. On sentait pas la communion avec tous les sports et tous les athlètes. Donc, tu sais, il y a deux façons de voir ça. C'est comme le fameux étalement urbain dont on parle beaucoup, là, qu'on veut éviter maintenant en construction, quand on fait des villes, on veut rassembler le monde pour que, justement, on utilise le transport en commun, que la voiture soit pas trop utilisée. Ben, c'est des jeux avec un étalement urbain, ce qui est zéro 2026, si on veut. Mais de notre côté, tu comprends pourquoi, comme je disais, parce que ça permettait d'utiliser des installations qui existaient. Parce que pour les jeux, là, on a fait deux choses. On a fait le fameux Nouvel Arena, qui a été très controversé parce que ça s'est vraiment terminé au dernier moment. Et on a fait le village olympique qui va devenir certains HLM, résidences étudiantes, tout ça. Donc, un truc assez contemporain. Dans les deux cas, on a fait dans des quartiers émergents, justement pour aider la revitalisation de quartiers qui ont besoin un peu d'amour. C'est vraiment le cas de l'Arena, par exemple. Mais ça se comprend aussi parce que Milan était une ville très vieille. Il n'y a pas de place au milieu pour faire ça sans exproprier, détruire des bâtiments historiques. Donc, tout ça se comprend. Mais je pense que là-dessus, ils l'ont bien fait. Pour moi, ça va quand même. J'ai quand même vécu parce que je me tenais justement dans différents endroits où il y avait la fièvre olympique, donc c'est vrai. Mais je peux comprendre des gens dire, ben le fait qu'il n'y ait pas de neige, le fait qu'il n'y ait pas la magie des petites villes, mettons Salt Lake ou Albertville, où les gens ont dit, ben c'était le petit, ou même Lake Placid, tu sais, un petit village que là, il y a la fièvre, elle est évidente parce que tout le monde est là en même temps. Donc, ça prend vraiment le contrôle de la ville, tout ça. Ça reste pour moi quand même si c'était pas tout le temps les feux d'artifice olympiques. Pour moi, ça ne m'a pas dérangé du tout. J'ai aimé ça parce que j'ai l'impression que je me suis immiscé dans la vie quotidienne des Milanais. Et les Milanais ont continué à faire leur affaire en faisant comme, oh oui, c'est bien cute, mais nous, on a des choses à bâtir, on a des choses à décider, on a des choses à faire. Donc, c'est un peu à l'image de Milan, qui est une ville de... Oui, certains disent que c'est le New York de l'Italie, puis je suis un peu d'accord. C'est une ville de travail. C'est une ville de créateurs. Et elle a pas changé tant que ça pour les Olympiques. Elle s'est accommodée un peu, mais pas trop. Et pour moi, ça restait une ville formidable parce que c'est une grosse ville. J'aime les grosses villes. Et c'est une ville qui vraiment... qui s'apprivoise, je trouve, que les premiers abords peut être puis finalement, mais quand tu commences à connaître des quartiers, quand tu commences à connaître des lieux, tu fais comme, ah oui, je comprends pourquoi Milan, il y a quelque chose à Milan, tu sais, je peux comprendre. Ça, je pense, je l'ai plus compris à la fin
de mon séjour. C'est vraiment intéressant, tu nous parles de ça, parce que en même temps, Milan, c'est on l'idéalise un peu comme ville, justement, du côté de la mode, puis c'est magnifique, justement, tu parlais de l'aréna. Est-ce que c'était vraiment qu'on... Est-ce que c'était vraiment fini? Est-ce que c'était confortable? Est-ce que c'était le fun, justement?
en gros, ce qui devait être montré aux spectateurs, c'était correct. T'sais, ils ont été vraiment à la fin. Mais les détails, mettons, quand tu marchais en dehors de l'aréna, dans le building, des fois, tu voyais... T'sais, la peinture pas terminée, les détails pas terminés. Puis j'ai parlé à des gens qui travaillaient sur place, puis ils ont dit, en bas, c'est n'importe quoi. Il y a des portes tous, il y a rien. Il y a de l'eau en bas. T'sais, ils ont vraiment fini sur une fesse. L'aménagement paysager autour, c'était affreux. C'était pas terminé du tout. Ça, c'était un peu triste. Là. C'était vraiment, tu sentais qu'ils mettaient des panneaux pour, dans le fond, cacher ce qui n'était pas terminé autour. Mais, puis aussi, l'autre truc que je trouve dommage comme fan de hockey, mais que je peux comprendre venant d'une ville ou d'un pays où le hockey n'est pas le sport numéro un, ils ont vraiment fait une salle multisport qui était le meilleur investissement aussi, ce qui est absolument compréhensible. C'est-à-dire qu'elle est, c'est un, ça peut devenir un genre de palais des congrès, ça peut devenir une salle de spectacle et d'événements sportifs. Dans le hockey, la qualité de la glace a été bonne. Ça, c'est, personne ne peut dire rien contre la qualité de la glace. Mais, par exemple, il y avait une distance entre le banc des joueurs et la première rangée de spectateurs. Et moi, ça, je trouve ça, c'est pas impressionnant. C'est pas le Centre Bell. Tu sais, le Centre Bell, on est souvent critique envers nos affaires, mais le Centre Bell, il est quand même bien réussi là, pour un truc qui a été fait au milieu des années 90. Le côté côte abrupte, là, la pente abrupte qui fait que t'es vraiment par-dessus l'action. Tout le monde dit que ça aide à l'atmosphère du Centre Bell, que ça aide à intimider les clubs adverses. T'avais pas ça à l'Arena de Milan. Mais cela dit, pour, tu sais, je pense qu'il y avait 11, 12 000 places, parce qu'il y a un côté que c'est vraiment pour spectacle amovible, donc il y avait même un rideau, là. Mais pour voir des matchs de hockey, ça restait quand même bien. C'était pas gigantesque. On voyait bien de partout. Puis je considère quand même que c'est quand même réussi. C'était beau. C'est beau quand même. C'est très beau de l'extérieur. Là. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent. Il y a un genre de... un peu à la Moomin Factory, là, des lumières. Il y avait une calligraphie. On mettait des messages. Et ça, c'était réussi. Là. L'édifice de l'extérieur, il est beau. Puis à l'intérieur, c'est, moi, je trouve que c'était quand même réussi. Et un truc que aussi les gens ont aimé, là, les puristes, c'est que contrairement à au hockey professionnel maintenant, tu sais, pas d'annonce sur les bandes, pas d'annonce sur la glace, le côté pur, pas d'arrêt de jeu télé, le fameux 70 secondes qui des fois ralentit le match. T'sais, vraiment, c'est le hockey pur comme on le jouait à l'époque et comme on avait à l'époque au forum quand il n'y avait pas d'annonce sur les bandes, quand il n'y avait pas d'annonce sur la glace. Fait qu'il y avait un petit côté pour les puristes qui était le fun ou les vieux monsieur comme moi qui parfois sont nostalgiques du passé et de la pureté du sport à ce moment-là.
Justement, quand on parle de justement l'aréna, pour se rendre là-bas, puis aussi pour comment pour se déplacer à Milan, comment c'est arrangé? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est un problème de se déplacer à Milan?
Oui, c'est une des forces de beaucoup de villes européennes, c'est que le transport en commun est hyper bien organisé. Très, très facile. Là-dessus, on va leur donner, ils ont été très, très efficaces. Parce que c'est beaucoup de monde qui arrivait à cette station de métro qui est, il y a une station de train aussi pas loin. Et là, il fallait quand même se rendre à l'aréna. Puis de là, de marcher, c'était long. Mais il y avait des navettes gratuites qui transportaient les spectateurs et je dois avouer que c'était très efficace, très bien fait. Donc ça, il faut leur donner chapeau. Ça, ils ont réussi. Et même après, quand tout le monde partait, tout le monde prenait la navette en même temps, mais le roulement de navette, là, c'était efficace. Moi, je trouve que là-dessus, ils ont été très, très, très efficaces. Fait que là-dessus, j'ai rien à dire. C'était parfait, c'était impeccable. Puis dans la ville, ben c'est une ville qui se marche bien parce que c'est une ville assez plate. C'est une ville qui est grande, mais qui est quand même encore à dimension humaine. Donc, le centre se marche très, très bien. Et il y a un très bon système de métro et de train de banlieue. Donc, c'est très, très facile d'accès. Et l'intérieur de la ville, l'intramuros, mais si tu veux même te promener autour de la ville, en banlieue, à la campagne, c'est facile aussi. Au niveau transport en commun, c'est une ville vraiment, vraiment idéale. Puis tu as aussi le charme des vieux tramways qu'ils ont conservés. D'ailleurs, à un moment donné, ils ont voulu les enlever, les vieux en bois, puis il y a un tollé dans la ville. Ils ont dit non, il y a certaines lignes, on garde les vieux tramways, ce qui fait que c'est très, très beau. Ça a beaucoup de charme. Et ben ils ont les autobus, les métros et le train de banlieue. Donc, au niveau transport en commun, c'est une ville où tu as zéro besoin de voiture, selon moi. Là. Si tu restes en ville, tu as zéro besoin de voiture.
OK, c'est super intéressant. Puis justement, par rapport à ça, est-ce que le transport, est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est abordable? Y a-t-il une passe quelconque pour les touristes? Est-ce que tu es au courant de tout?
Tu as des passes de 3 jours, tu peux prendre des passes de plus longue durée, de 15 jours, puis ça devient vraiment, vraiment intéressant. Puis moi, je dis toujours quand même, et là, malgré un euro qui est fort, moi, je regardais mes factures restaurant, puis je trouvais toujours que c'était moins cher que chez nous. Et ça, c'est pas pour critiquer chez nous. Chez nous, tout coûte cher. Mais même avec un euro à 1,61-1,62, ce qui est très, très cher, ben, je reviens toujours à ça. L'alcool est moins cher. Le prix, quand ils te mettent la facture, ben t'as et le service et les taxes sont dans le prix. Tout est inclus. Et je regarde, je fais des comparatifs, là, et même dans des beaux restaurants, des bons restaurants, ben, c'était toujours, toujours moins cher que chez nous. Et il y a moyen de manger pas cher aussi à Milan. C'est ce que j'aime. C'est que c'est une ville où il y a tout. Il y a les restaurants très chics de la vieille bourgeoisie. Les gens qui ont beaucoup d'argent, mais il y a moyen de manger dans des petites trattorias pas chères, manger de la pizza pas chère. C'est une ville... Oui, c'est la ville la plus chère d'Italie. C'est cher au niveau des hôtels, c'est cher pour les appartements, mais pour se nourrir, se déplacer, pour vivre le quotidien, pour vivre le troisième lieu, qui n'est pas le travail ni la maison, ben c'est une ville qui peut rester abordable si
Parfait.
Tu sais où aller.
Par rapport à justement à ça, par rapport aux endroits, est-ce que tu as des endroits que tu pourrais nous recommander à visiter, des incontournables de Milan pour qu'on pourrait vraiment...
Ouais, il y a beaucoup de choses. Il y a vraiment de très beaux musées. Il y a un très beau musée de la photographie dans Brera, qui est un très beau quartier. Le quartier de Brera, que j'aime beaucoup, qui est pas trop loin du centre. Mais mon coup de cœur dans ce voyage-là, c'est le quartier Isola, qui était pas loin de mon appartement. Moi, j'étais dans le quartier d'Ergano, qui est un peu au nord, qui est un quartier émergent, faut le dire. On est au nord de la station de train Garibaldi. C'est un quartier qui commence à changer, mais c'est un quartier prolétaire qui qui est un petit peu excentrée, mais qui se voyage très bien, qui a une station de métro pas loin, qui, elle, est la ligne jaune, puis qui t'amène au Duomo en 20 minutes, qui t'amène au cœur de Milan. Mais moi, mon gros coup de cœur, ma grosse découverte, c'est un quartier qui s'appelle Isola, I-S-O-L-A, qui est au nord donc de Garibaldi, qui est au nord aussi du nouveau quartier avec le fameux édifice là, avec les plantes, qui est un édifice iconique maintenant, un bloc appartement très design, qui a gagné des prix, qui est très, très magnifique, qui est dans un coin le coin moderne, si on veut, de Milan. Il y a le musée du design aussi, un très, très beau musée du design. Tous les objets cultes de l'Italie, ça, faut absolument voir ça, c'est absolument magnifique. Donc, ça va des objets de la maison jusqu'à la Ferrari, tout ce que l'Italie a fait. Le Compador, là, c'est une sorte de reconnaissance. Et ça, c'est vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Tout le monde qui s'intéresse au design industriel, c'est absolument à voir. Donc, c'est une ville qui a une offre culturelle vraiment, vraiment, vraiment intéressante. Puis des quartiers, ouais, je dirais... Puis aussi, ben Navili aussi. Il y a plusieurs quartiers le fun. Navili, c'est où il y a ces genres de canaux. Là, c'est le petit Venise de Milan. D'ailleurs, pendant les Olympiques, beaucoup de fans allaient là parce que c'était entre la ville et le sud où se trouve l'aréna. Donc, beaucoup de... D'ailleurs, il y a un des bars dans le quartier de Navili, là, N-A-V-I-G-L-I, qui était comme le bureau principal des fans de l'équipe Canada. Et ils allaient là regarder les matchs à la télé quand ils n'avaient pas de billets. Donc, Navili, Brera, qui est absolument magnifique. Le quadrilatère de la mode ou le quadrilatère d'or, ça, c'est vraiment les belles boutiques. Mais il y a des très beaux cafés, des vieux cafés. Moi, j'aime beaucoup ce coin-là aussi. Mais mon coup de cœur, comme je dis, au niveau des restaurants, de l'offre, c'est Isola qui a été une belle découverte que je connaissais pas. Qui est la preuve aussi que tu peux pas comprendre une ville en 2-3 jours ou en 4-5 jours. C'est à force d'y aller, c'est à force de retourner, c'est à force de découvrir. C'est pour ça que des fois, il faut faire tellement attention des jugements, je trouve, rapide. Ah, ça, j'aime ça, ça, j'aime pas ça, j'ai aimé ça. C'est en peu de temps. Mais moi, c'est drôle parce que vraiment, au début, je trippais pas tant que ça sur Milan. Et là, j'y passe de plus en plus de temps. Et là, avoir passé 15 jours, ben, c'est une ville que... Tu sais, j'ai hâte de retourner. Il y a encore des trucs que je veux découvrir. Puis il y a vraiment des coins de la ville
par
que j'aime
rapport,
beaucoup.
Justement, toi, tu es un amateur de café. On sait que tu as écrit un livre café. Est-ce qu'il y a des cafés que tu retournes puis que tu as aimé? Tu me disais que les prix du café étaient super abordables encore là-bas, encore comparé à ici. Est-ce que tu as des endroits qu'il faut aller, des cafés, des restaurants qu'il ne faut pas manquer à Milan?
Ben, je trouve que ce qui est le fun de Milan, c'est que t'as les deux. T'as les cafés historiques, comme Marchesi, par exemple, qu'il y en a quelques-uns en ville, dont un quadrilatère de la Via Monte Napoleone, qui est la rue chic, là. Mais si tu prends ton café au bar, c'est pas cher et très abordable. En Italie, t'as souvent ça, cette différence. Si tu t'assois dans la salle, ça peut devenir cher. Si tu restes au comptoir, tu vas payer ton café moins cher. C'est la même chose à Florence, c'est la même chose à Venise ou à Rome. Et ça, c'est surtout dans les cafés historiques où il y a beaucoup de monde. Donc, il y a toujours moyen de payer ce petit luxe à un prix très abordable et un très bon café. Et Milan, je sais pas, par l'influence peut-être internationale, tu as aussi cette tendance de café troisième vague, un peu plus branché, un peu plus cher, mais il y a des très bons cafés aussi. Mais là, à ce moment-là, t'es plus dans le café branché où le prix ressemble plus à notre prix des cafés à 4 euros, alors que les autres peuvent être des cafés à 1,60 €, 1,80 €. Tu sais, c'est vraiment abordable, mais dans les cafés troisième vague. Puis, j'essaie de penser, de me rappeler des noms de restaurants, mais il y en a plusieurs. Mais dans Isola, il y a plusieurs restaurants que je pourrais conseiller. Il y a vraiment, vraiment le rapport qualité-prix, moins de touristes. Et ça, je trouve que ça, c'est vraiment un quartier à faire. Au niveau de la pizza, au niveau des classiques italiens, moi, j'ai vraiment, vraiment trippé. Dans ce cas-là, les bars aussi, il y a des très beaux bars. Fait que c'est vraiment un coin où on se trompe pas. Je dirais Isola parce que vraiment, c'est... Puis il y a un endroit où je suis allé qui est vraiment bon qui s'appelle Osteria dei Vecchi Sapori. Osteria dei Vecchi Sapori, c'était vraiment la vieille cuisine italienne du nord de l'Italie qui a plus d'influence française du fait que c'est près de la France et de la Haute-Savoie. J'ai bien mangé, j'ai bien bu. Et comme je dis, je reviens toujours à ça, à des prix vraiment
abordables. C'est super intéressant de voir ça, de justement qu'on peut avoir encore quelque chose qui est presque moins cher qu'ici en voyageant justement là-bas. Pour se rendre à Milan à partir d'ici, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est facile de se rendre, qu'on soit justement si au Québec ou si on est en France? J'imagine que c'est un peu plus facile. Des fois qu'on aide des auditeurs en France, sait-on jamais, ou en Europe. Ben, donc.
Par le fait que c'est une ville, c'est un hub vraiment important de la finance et du travail. C'est vraiment un hub important d'Europe. C'est facile d'accès. L'avantage du Québec, avec ses vols, c'est qu'il y a des vols quotidiens pour Milan, direct avec Air Canada. Donc, tous les jours, tu peux te rendre à Milan, ce qui fait que ça facilite aussi si tu veux rester 10 jours, 7 jours, 8 jours. L'aéroport de Malpensa est au nord-ouest de la ville. Il est à peu près en train, tu peux le faire, tu peux atteindre le centre-ville en une quarantaine de minutes, ça se fait super bien, pas cher. Donc là, t'es rendu dans le cœur de la ville, donc ça se fait super bien. Et pour les villes d'Europe, ben c'est très bien desservi par les trains, ce qui est un autre plus. Puis aussi, tu as des options autobus aussi. Donc c'est facile d'accès. Et de là, tu peux rayonner vraiment bien. Tu peux aller en Suisse, tu peux aller à Zurich, par exemple, vers le nord. Tu peux aller à Turin. Le train rapide peut te le faire en moins d'une heure, en je pense 50 minutes. Tu peux être à Turin. Tu peux aller à Gênes, qui est pas loin non plus, sur le bord de l'eau. Donc, tu as plein d'options de Milan. Tu peux aller à Venise, évidemment, parce qu'il y a tellement de choses à voir dans le nord de l'Italie. Puis, il y a des villes autour intéressantes, dont Pavia, par exemple, qui est vraiment, vraiment jolie. Il y a vraiment, vraiment à voir et à faire dans Émilie-Romagna, qui est ce coin d'Italie. L'avantage aussi, c'est très, très facile d'accès du Québec avec ses vols quotidiens.
Oui, justement, tu parlais de l'Émilie-Romagne, qui est un peu le jardin alimentaire de l'Italie, en fait.
Voilà, exactement, exactement. On mange très bien aussi, c'est ça que j'ai trouvé. Puis comme c'est une ville internationale, ben des fois quand t'es tanné de l'italien, t'as des bons restaurants japonais, asiatiques, t'as de la cuisine de partout parce que t'as du monde de partout. C'est un hub, tu sais, c'est vraiment, il y a du monde de partout à Milan.
Ben justement par rapport, tu me parlais de voyages dans le nord de l'Italie et tout ça, si tu me parlais un peu de tes projets qui s'en viennent, je sais que t'as un voyage en Italie qui s'en vient avec les touristes, si je me trompe pas. Si tu nous parlais un peu de tes projets qui s'en viennent au cours de la prochaine année jusqu'au mois de décembre, peut-être. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Je sais que tu es très occupé. Si tu nous parlais un peu de ce qui s'en vient, justement, que ce soit projet télé, que ce soit projet de voyage, parce que tu es guide de voyage pour Groupe Voyage Québec, comme on le disait tout à l'heure. Et puis, je dis en introduction, mais voilà. Donc, si tu peux nous parler un peu de ça. Puis s'il y a des gens qui veulent se joindre à tes groupes, je sais qu'ils sont très populaires, qu'ils se remplissent très vite, mais si jamais tu peux nous parler un peu de tes projets qui arrivent, puis si ça peut aider des gens à te suivre dans tes aventures.
Bien, ce printemps, je vais quand même être, à partir de la mi-avril jusqu'à début juin, je vais être au Québec. Je suis sur quelques projet en développement. Et aussi, on est dans la fin du montage de notre nouvelle série sur le Japon qu'on a tournée à l'automne, qui va débuter en juin à Évasion. Je me rappelle plus exactement la date. Là. Je sais pas si c'est le 8 juin ou le 10 juin, mais début juin, c'est la nouvelle série sur le Japon. Je suis vraiment content de ce qu'on a fait. Là, on est... Le réalisateur gentiment m'envoie les trucs et je suis vraiment content de ce qu'on a fait. On a fait 10 shows sur le Japon. On a fait les incontournables, mais on a fait des coins moins connus parce que c'est pas vrai que tout le Japon a du surtourisme. Kyoto a du surtourisme, mais il y a plein d'endroits où il n'y a pas de touristes, dont l'île de Kyushu, qui est une île à l'ouest, sud-ouest, là, si on veut, et vraiment tranquille. On a fait des villes où il y a peu de touristes ou pas de touristes et je suis vraiment content. Je trouve que c'est un bel équilibre entre justement les endroits plus connus et moins connu. Fait que ça, c'est 10 shows qui seront présentés à Évasion à partir de juin et qui vont être diffusés à TVA, chaîne principale. Ça, je ne sais pas quand, mais je trouve que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne chose que ça soit aussi à la télé.
C'est avec Benoît Roberge.
Oui, le réalisateur de Étienne Bordelot et Benoît Chamberlain, qui est notre directeur photo, notre petite équipe, mais bien appuyé par Zone 3. Puis je suis vraiment content du show qu'on a fait. Là. Je trouve que En tout cas, je trouve ça un pays inspirant. Benoît, il est tombé en amour avec le pays. Moi, je connaissais un peu, mais Benoît, c'est la première fois, puis il a vraiment baissé ça. Pour un foodie comme Benoît, c'est vraiment le paradis. Je suis vraiment content de ça. Donc ça, 3 juin, je quitte pour l'Italie. Le voyage est déjà complet, mais c'est la deuxième année que j'accompagne ce circuit que j'ai dessiné, justement, voulant mettre en valeur des villes un peu moins connues d'Italie, parce qu'il y a un très beau circuit qui est Rome, Florence, Venise, qui est magnifique. Mais évidemment, maintenant, il y a beaucoup de monde. Même dans ce qu'ils appellent les shoulder season en anglais, là, un peu hors saison, l'automne, le printemps, il y a beaucoup de monde en Italie. Et moi, je me disais, pourquoi pas proposer aussi, en complément de ça, des villes un peu moins connues. Donc, c'est un circuit où on fait Milan, Turin et Gênes. Une dizaine de jours, on se déplace en train, donc une empreinte carbone petite. Et puis, ça a très bien marché. L'année dernière, les gens ont beaucoup aimé. Ont été impressionnés justement par Turin, la beauté de la ville. Je trouve que c'est un beau voyage. Fait que ça, je se fais. Et j'espère le refaire d'autres années, là, si ça se passe bien encore cette année. Le groupe est complet pour cette année. Et cet automne, je me suis engagé à faire... Pour l'instant, 3 voyages, mais je vais quand même être au Québec. Là, je vais être au Québec jusqu'à la mi-septembre. Tout l'été, juillet ou mi-septembre, je vais être là. Et je vais faire un back-à-back Costa del Sol que j'ai déjà fait, qui est un 4 jours à Séville et un 9 jours à côté de Malaga, à Torremolinos, où est l'hôtel. Donc, on a la plage, c'est ce qu'on appelle les circuits séjours, donc plus de temps libre. Mais il y a tellement de choses à voir en Andalousie. Il y a beaucoup d'excursions. On va aller voir Ronda. On va aller voir Toledo, Cordoba. On va voir plein de choses autour qui sont vraiment magnifiques dans ce coin. On voit Jerez, Cadiz. Donc, c'est vraiment un très, très beau circuit avec des temps libres. Fait que ça, je suis vraiment content. Je l'ai fait il y a 2 ans. J'avais beaucoup aimé ça. Puis c'est un coin que j'aime beaucoup d'Europe, le sud de l'Espagne. Et après ça, je fais un combiné Portugal, où on va faire Lisbonne et Porto, que je connais bien, et on va faire Nazaré, que je ne connais pas, mais que je veux voir depuis plusieurs années, parce que je suis grand fan de la série à HBO qui s'appelle 100 Foot Wave, qui sont sur les surfers qui aiment ces géants de 100 pieds, où on a parmi les plus hautes vagues au monde. Et Nazaré est vraiment connu depuis une dizaine d'années parce que ce sont des vagues incroyables, surtout l'hiver. Et donc, on va découvrir ensemble Nazaré, puis ça va être la première fois pour moi. Mais je connais quand même un peu Porto et Lisbonne, donc c'est un beau circuit. Après ça, je reviens, je vais être au Québec, je devrais être au Salon Tourisme cette année encore. Et j'ai un petit voyage simple en décembre, marché de Noël de début décembre, Berlin et Prague, 2 villes que j'aime bien, que j'aime beaucoup même, des villes intéressantes d'Europe où je suis allé souvent. Et j'aime le principe de seulement 2 villes, un déplacement en train entre les 2 villes et 4 jours, et on reste en ville. Donc, c'est des séjours vraiment urbains. Et c'est le fun de voir les marchés de Noël d'Europe de l'Est. Ils sont toujours très, 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 très beaux. Donc, c'est ça. Et parallèlement, donc, quelques petits projets en développement. en train de planifier le reste de mon année 2025. Mais encore là, c'est pas clair. Là, je suis à organiser un peu mes flûtes. Mais pour les voyages automne, là, ça vient d'être annoncé. Donc, pour ça, il y a encore de la place. Et je vais accompagner donc ces 3 voyages.
Super, c'est vraiment intéressant. C'est quand même une année déjà remplie, même si on est juste au 3e mois, 4e mois bientôt. Ouais. C'est vraiment intéressant. Et puis, c'est justement par rapport à ça, si les gens veulent un peu en savoir un peu plus sur toi, veulent te suivre, où ils doivent aller, est-ce que c'est quoi le meilleur endroit, Facebook, Instagram?
Je pense que on dirait que finalement Instagram, c'est probablement là où je suis le plus souvent. Là, je suis pas sur TikTok, mais je suis sur Instagram. Facebook aussi. Je trouve que Facebook et Instagram restent les deux. Je fais un petit peu encore de X, de Twitter, même si des fois, j'ai de la misère avec le propriétaire. Et je fais quand même encore du siège du lot, réseaux sociaux aussi. Donc mais sur ces plateformes-là, on voit justement les vidéos, mes trucs qui vont être annoncés. Et si vous allez sur le site de gvq.ca, vous avez tous mes... tous mes voyages et c'est facile de retrouver justement avec mon nom les différents endroits où je vais aller, les différents voyages. Donc, à ce moment-là, c'est facile. Puis ça peut se faire à travers leur agence, ça peut se faire avec d'autres agents de voyage aussi. Ça sera pas des gros groupes, on va faire ça de façon humaine, à dimension humaine. Donc, je pense que ça peut être des beaux voyages cet automne. Et ben voilà, mais je vais quand même être au Québec, tu sais, je dis ça, mais de début juillet jusqu'à mi-septembre, je vais être surtout dans la Naudière et un peu à Montréal, là, mais je veux cet été me reposer. C'est tellement la haute saison que qu'à ce moment-là, je suis content de profiter du beau temps au Québec puis de profiter du Québec
aussi. Justement, juste un petit aparté sur si jamais as-tu des endroits au Québec que tu conseilles aux gens de visiter, des endroits que tu as vraiment aimé avec des découvertes que tu as faites dans les dernières années, même si tu n'es pas été ici beaucoup? Y a-tu des endroits coup de cœur que tu...
Ben, il y en a quand même beaucoup. Je trouve qu'on a une province incroyable. On a des trucs à voir. Tu sais, je serais toujours, tu sais, Québec reste une super belle ville. Il y a des coins en Mauricie qui sont super beaux, là. Tu sais, pour ma fête cette année, j'ai invité mes amis à Pourvoirie du Lac Blanc, là, qui est à côté de Saint-Alexis-des-Monts. Tu sais, on est chanceux. On a des lacs incroyables. On a des pourvoiries incroyables. Moi, je suis grand fan de la Gaspésie. Je trouve que c'est puis du bas du fleuve. J'aime beaucoup la rive sud du fleuve Saint-Laurent parce qu'il y a des couchers de soleil de la mort, on le sait, au parc du Bic et tout ça. Mais j'ai même un petit terrain éventuellement à faire un projet modeste à Capshaw, que c'est vraiment pour moi un coup de cœur. C'est comme notre Californie. T'sais, pour vrai, là, quand tu fais la 132 puis tu fais la Pacific Coast Highway en Californie, il y a des moments où tu as l'impression que ça se ressemble. Je sais que quelqu'un va dire que tu es malade mental, mais non, quand tu fais dans le Pacific Northwest, puis tu vois les montagnes, Saint-Anne-des-Monts, il y a des endroits là, qui sont absolument magnifiques là, en Gaspésie. Donc, ça, je suis fan. Charlevoix reste aussi toujours très beau. Il y a quelques années, je suis allé en Abitibi-Témiscamingue. J'avais beaucoup aimé Rouen. Val-d'Or, j'aime ça. T'sais, des villes qui ont un passé, il y a des vieux édifices, tu sens un côté un peu far west du Québec. Fait que non, il y a c'est une province que j'aime. Puis mon petit coin de paradis, t'sais, je suis fan de l'Anneau d'Hier. Moi, je suis pas un skieur alpin, c'est ce que je voulais. J'espérais un jour dans ma vie avoir un plan d'eau. C'est surtout ça que je voulais, pouvoir me baigner l'été. J'aime vraiment ça. Même j'aime me baigner au printemps, à l'automne. Je trouve quasiment que l'eau est trop chaude l'été. J'aime quand l'eau est froide un peu. D'où aussi mon amour pour la Gaspésie. Parce que moi, l'eau froide, j'aime ça maintenant. Ça saisit, puis ça fait du bien. Puis l'eau est évidemment froide à la Gaspésie, même l'été. Mais moi, j'aime bien. Puis ça sent la mer. C'est notre mer. Puis maintenant... En vieillissant, des fois, j'ai moins le goût d'aller dans le Maine où j'aimais aller avant, mais avec tout ce qui se passe chez nos voisins du Sud, ben, je me dis, la mer, on l'a chez nous aussi, donc pourquoi pas là, éventuellement passer plus de temps au bord de la mer, mais au Québec.
Merci beaucoup, Jean-Michel, d'avoir été avec nous. Et pour ceux qui veulent suivre Jean-Michel dans ses aventures, c'est JM Dufault ou Jean-Michel Dufault, ainsi que Siège Hublot, donc son site web et ses réseaux sociaux. Vous venez d'écouter le 10e épisode d'En première classe, un balado par Géantologie, le magazine pour gentlemen. Merci d'avoir été des nôtres pour cette conversation avec M. Jean-Michel Dufault et d'y avoir accordé toute votre attention jusqu'au dernier mot. Si cet échange vous a inspiré, je vous invite à découvrir une multitude de contenus sur géantologie.com, à vous abonner au balado et à partager cet épisode avec ceux pour qui l'art de vivre, la culture et le savoir-faire ont une vraie valeur. Je suis Normand Boulanger, fondateur, éditeur et rédacteur en chef de Géantologie et l'on se retrouve très bientôt en première classe.